VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du vendredi 15 janvier 2016. À la une ce soir.
La justice militaire du Burkina Faso lance un mandat d'arrêt international à l'encontre de Guillaume Soro, président du Parlement ivoirien.
Depuis l'éclatement de cette affaire d'écoute téléphonique, c'est gênant pour les deux États, mais c'est une question à vérifier.
À Gitega, la Cour suprême burundaise condamne 4 généraux à la prison à vie pour tentative de coup d'État.
De son côté, l'ONU dénonce des massacres ethniques et autres crimes graves perpétrés au Burundi.
La célébration aura été de courte durée. Un nouveau cas d'Ebola est confirmé en Afrique de l'Ouest.
Iran nucléaire, l'Europe, les États-Unis et l'ONU pourraient lever les sanctions dans les prochains jours.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Burundi, la Cour suprême, en itinérance à Gitega, a rendu son verdict dans le procès des 28 militaires et policiers accusés de tentative de coup d'État. 4 généraux et policiers ont été condamnés à la perpétuité. Les avocats de la défense ne s'étaient pas présentés à Gitega pour la séance. Reportage du correspondant de VOA Afrique sur place, Christophe Kourounziza.
4 généraux, Cyril Ndayirukiye, numéro 2 du fameux putsch raté du 13 mai 2015, Juvenal Niyungiko, alias Kiroho, Zenon Dawaneze et Herménégilde Nimenya, qui avaient plaidé coupables, affirmant qu'ils ont fait le coup d'État par respect de l'accord de paix d'Arusha et de la Constitution, sont condamnés à une peine de prison à vie. En outre, ils écopent une peine complémentaire de 10 ans sans travailler à la fonction publique. Un deuxième groupe de 9 personnes, dont le colonel Joseph Mikolokoro et le major Kazungu, ont été condamnés à une peine de 30 ans de prison avec la même peine complémentaire de 10 ans. Le troisième groupe, composé de 8 personnes, ont écopé de 5 ans de prison ferme, tandis que 7 policiers et militaires ont été acquittés, parmi lesquels le colonel retraité Jean Bosco Darandangwa et Prime Ngoenoubusa. Un des avocats du parti CNDD-FDD s'est dit satisfait du verdict prononcé, mais demande que les dommages et intérêts pour le parti présidentiel soient tenus en considération. Signalons aussi qu'aucun avocat de la défense ne s'était présenté à la cour d'appel de Gitega. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
L'ONU dénonce des massacres ethniques, des charniers et des viols collectifs au Burundi. Selon le haut commissaire des Nations Unies, un effondrement complet de l'ordre public est imminent à Bujumbura. Les détails avec Nicolas Pinault.
Oui, c'est le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad Al Hussein, qui tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué, le diplomate dénonce des violences sexuelles commises par des membres des forces de sécurité et une forte augmentation des disparitions forcées, des tortures. Selon M. Al Hussein, tous les signaux d'alarme, y compris celui d'une dimension de plus en plus ethnique de la crise, sont en train de virer au rouge, ajoutant qu'un effondrement complet de l'ordre public est imminent au Burundi. Autre fait inquiétant, selon l'ONU, l'existence possible d'au moins 9 charniers à Bujumbura et dans ses environs, y compris dans un camp militaire. Selon des témoins cités dans le communiqué, il contiendrait au moins 100 corps, tous tués lors d'attaques lancées le 11 décembre contre 3 camps militaires. L'expert sur l'Afrique du Haut-Commissariat aux réfugiés, Scott Campbell, a déclaré ce vendredi que 3 représentants de l'institution avaient prévu de se rendre sur place le 25 janvier, mais sans garantie d'avoir des visas. Selon l'ONU, au moins 439 personnes ont trouvé la mort entre le 26 avril 2015 et le 14 janvier 2016 au Burundi, poussant plus de 200 000 personnes à quitter le pays.
Et Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, une mesure prise par la justice militaire du Burkina Faso dans le cadre du coup d'État raté du 17 septembre et des écoutes téléphoniques. Souvenez-vous des enregistrements téléphoniques attribués à Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères du Burkina, et à M. Soro, ont été évoqués dans la presse en novembre. Dans cet enregistrement, les deux interlocuteurs envisagent la possibilité de soutenir le putsch en cours et de frapper dans le nord du Burkina pour faire paniquer l'armée régulière. Nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
Au Cameroun, ce sont environ 1200 personnes qui ont été tuées depuis 2013, un point que nous allons développer un peu plus tard dans cette édition. Mais disons d'abord que 2 soldats maliens ont été tués ce vendredi dans une embuscade près de Tombouctou, dans le nord-ouest du Mali, par des hommes armés, ont indiqué à l'AFP des sources militaires et de sécurité maliennes. Cette attaque survient une semaine après l'enlèvement, le 8 janvier, d'une Suissesse, Béatrice Stockley, dans la ville de Tombouctou où elle était établie.
Un nouveau cas d'Ebola confirmé en Sierra Leone. La déception est grande puisque hier, l'OMS annonçait la fin de l'épidémie. Le point avec Eric Manirakiza.
La nouvelle victime est une étudiante de 22 ans. Elle est décédée dans le nord du pays à Makburaka il y a 3 jours. Selon l'OMS, 2 tests ont confirmé la présence du virus Ebola, dont le premier prélèvement a été testé positif hier. Immédiatement, la cellule de gestion de crise a été réactivée et des équipes d'enquête de voisinage sont déployées dans les villes de Makeni et Makburaka. La famille de la victime a été placée en isolement, mais aussi toutes les mesures ont été prises pour tenter de circonscrire la propagation et identifier les personnes ayant été en contact avec Marie, la victime. La célébration hier de l'arrêt de toutes les chaînes connues de transmission d'Ebola n'a duré que le temps de la rosée. Ce nouveau cas, confirmé, marque un recul dans la lutte. Le risque permanent d'Ebola cette année est réel, selon l'OMS, en raison de la persistance du virus chez les survivants. Ebola, qui a tué plus de 11 000 personnes, peut rester dans certains liquides corporels jusqu'à 9 mois, voire un an dans le sperme, par exemple.
Près de 1 200 morts, dont 70 policiers et militaires, bilan des attaques de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun depuis 2013. Le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Chiroma Bakari, revient sur les conséquences de ces attaques.
Le bilan est lourd dans l'extrême nord du Cameroun. 1098 civils, 67 militaires et 3 policiers ont été tués dans des attaques de Boko Haram. Très précis, le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Chiroma Bakari, a détaillé. Depuis 2013, il dénombre 32 attentats suicides, 315 incursions de terrorisme nigérien et 12 accidents dus à des explosions de mines antipersonnelles. Les attaques de Boko Haram, qui a rallié l'organisation du groupe État islamique, sont quasi quotidiennes depuis début 2016, plusieurs assauts étant parfois organisés simultanément dans certaines localités. Ainsi, 4 attaques ont été menées dans la nuit du 4 au 5 janvier dans 4 lieux différents, selon M. Chiroma. Les membres de Boko Haram se livrent aussi régulièrement au vol de bétail au Cameroun, sans compter les chèvres et les moutons, un véritable manque à gagner pour l'économie camerounaise.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et cette fin de semaine s'annonce cruciale pour l'Iran, qui pourrait enfin ne plus être sous sanctions internationales à cause de son programme nucléaire. Et suite à un rapport que doit publier l'agence atomique de l'ONU, l'AIEA, les 28 États membres de l'Union européenne ainsi que les États-Unis et l'Organisation des Nations Unies doivent annoncer la levée des sanctions, cela conformément à l'accord signé entre Téhéran et les puissances mondiales le 14 juillet dernier. Toutes les mesures juridiques pour la levée des sanctions d'ailleurs étaient mises en place depuis 3 mois.
2 Palestiniens ont été tués par des tirs de l'armée israélienne lors de heurts à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère palestinien de la Santé. On apprend de même source que 2 autres Palestiniens avaient été blessés par balles lors de ces incidents aujourd'hui. C'est une journée traditionnelle de mobilisation dans les territoires occupés où le Croissant Rouge palestinien a signalé plusieurs affrontements.
Le président de la Commission européenne a sermonné ce vendredi les États membres qui n'ont pas tenu leurs engagements dans la répartition des demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne à partir de l'Italie et de la Grèce. Pour l'heure, sur les 160 000 demandeurs d'asile qui doivent être répartis à terme dans l'Union, seuls 272 l'ont été effectivement, selon les derniers chiffres disponibles de l'exécutif européen. Et les États membres n'ont notifié que 4237 places disponibles rapidement.
Course à la Maison-Blanche, c'est le clash entre le magnat de l'immobilier Donald Trump et le sénateur du Texas Ted Cruz qui a polarisé l'attention lors du débat télévisé entre candidats républicains hier soir à Charleston, en Caroline du Sud. Jacques Aristide.
À 2 semaines du premier scrutin des primaires dans l'Iowa, Donald Trump et Ted Cruz se sont férocement affrontés jeudi soir. Pour Trump, un gros point d'interrogation pèse sur la légalité de la candidature de son rival, né au Canada, mais de parents américains, ce qui tout de même doit le rendre éligible. L'argument de Cruz, mis de l'avant avec ironie, la Constitution n'a pas changé, mais les chiffres des sondages, eux, ont évolué, notamment dans l'Iowa. Cruz, en revanche, a été cloué au pilori après avoir attaqué l'esprit new-yorkais de Trump, considéré comme étant trop libéral. La réplique de Trump, c'est insultant pour tous les New-Yorkais. J'étais là après les attentats du 11 septembre 2001, dit-il sous les applaudissements. Échange fougueux également entre Cruz et le sénateur Marco Rubio, troisième dans la plupart des sondages. Ce qui fait dire à des observateurs que c'est une course à trois qui se profile à l'horizon.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Pour faire face à des besoins en produits pétroliers croissants, le Congo-Brazzaville prépare une nouvelle raffinerie. L'infrastructure sera le fruit d'un partenariat entre l'État et Bevern Group International Development, société californienne. Coût des travaux, 1 milliard de dollars, selon The Economist. Cette nouvelle raffinerie aura une capacité de production annuelle de 5 millions de tonnes et sera située à mi-chemin entre la capitale politique Brazzaville et Ouesso, au nord. La Côte d'Ivoire fait sa première incursion sur le marché de la finance islamique. Il aura fallu mobiliser 150 milliards de francs CFA pour son premier soukouk, émission d'obligations conformes aux règles de l'islam. Ces titres d'une maturité de 5 ans portent une marge de profit de 5,75%. La finance islamique interdit la prise d'intérêt. La Côte d'Ivoire est le deuxième État de l'UMOA à émettre un soukouk après le Sénégal qui a mobilisé 100 milliards de francs CFA il y a 2 ans. L'Afrique du Sud a, elle, levé 500 millions de dollars pour son premier soukouk en septembre 2014. Le Niger a signé un accord avec l'ICD pour la levée de 150 milliards de francs CFA d'ici à 2020. La brasserie britannique Sab Miller va devoir fermer au Soudan du Sud à cause du manque de devises étrangères. Depuis mi-décembre, la Banque centrale a annoncé le passage au régime de change flottant fixé par le marché, ce qui a entraîné une dévaluation de fait d'environ 84%. 237 emplois devraient être affectés directement, des milliers d'emplois indirectement.
La Minute Éco, merci Anastasie. Place maintenant à l'actualité sportive avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Le CHAN 2016 démarre demain au Rwanda.
Oui, tirage peu évident pour le pays hôte dans le groupe A. Les Guêpes auront fort à faire avec le Maroc et le Gabon. Deux équipes qui ont atteint les quarts de finale du CHAN 2014 et la Côte d'Ivoire qui dispute là son deuxième championnat d'Afrique après l'édition 2009 que les éléphants avaient organisée. Le Maroc, notamment, semble armé pour faire taire les pronostics après s'être offert 2 fois le scalp de la Libye, pourtant championne en titre. Les éléphants, eux, ont validé leur biais pour le Rwanda en évinçant le vice-champion d'Afrique 2009 et 2014, le Ghana. Bugingo Emmanuel est vice-président et porte-parole du comité d'organisation du CHAN.
On a bien avancé avec les préparatifs. On a bien avancé au niveau des infrastructures. On a bien avancé aussi au niveau de l'organisation générale, l'accueil, le protocole, le transport, l'hébergement, la médiatisation de l'événement. Nous sommes vraiment prêts à accueillir cet événement grandiose et événement africain.
Voilà, c'était Bugingo Emmanuel.
Parlons maintenant du groupe B, Bagassi, RDC, Angola, Cameroun et Éthiopie.
Oui, vainqueur en 2009 pour le premier CHAN de l'histoire, la RDC s'annonce comme le grand favori de ce groupe B avec un effectif rempli de joueurs du TP Mazembe, champion d'Afrique en titre. Mais gare à l'Angola, finaliste en 2011 et qui aura à cœur de se rattraper après son absence en 2014 en Afrique du Sud. En 2011, le Cameroun avait échoué en quart de finale et tentera donc de faire aussi bien, tandis que l'Éthiopie viendra surtout pour apprendre pour sa première participation à la CAN des locaux.
Et qu'en est-il du groupe D, Bagassi?
Eh bien, dans le groupe D, on retrouve l'Ouganda avec le Zimbabwe, le Mali et la Zambie.
Et la poule C?
Dans la poule C, on retrouve la Tunisie, le Nigeria, la Guinée et le Niger. Arrêtons-nous un instant sur la Tunisie, vainqueur de l'édition 2011 organisée au Soudan. La Tunisie participera à son deuxième CHAN au Rwanda. Les Aigles de Carthage, privés de plusieurs de leurs cadres et de leur entraîneur Henri Kasperzak suite à un malaise, tenteront de refaire l'exploit et rentrer avec le sacre.
Alors on termine rapidement en basket.
Oui, hier soir, Toronto a eu raison d'Orlando, 106 à 103. Chicago a battu Philadelphie, 115 à 111. Memphis a gagné face à Détroit, 103 à 101. San Antonio, votre équipe, Chérubin, a eu le dessus sur Cleveland, 99 à 95.
Tout naturellement.
Voilà.
Merci Bagassi et bon week-end.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Morgane, la Côte d'Ivoire. Alors, la justice militaire du Burkina Faso lance un mandat d'arrêt international contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro.
Michel Amani Nguessan, ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo et vice-président chargé de la sécurité et de la défense au Front populaire ivoirien, réagit au micro d'Arzuma Compaoré.
Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont une relation d'amitié profonde. Et depuis l'éclatement de cette affaire d'écoute téléphonique, c'est gênant pour les deux États, mais c'est une question à vérifier. Et c'est pourquoi je pense que M. Soro Guillaume, qui avant tout est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, devra prendre toutes les dispositions juridiques qui s'imposent pour clarifier cette situation afin de laver l'image de la Côte d'Ivoire et remettre ces relations, ces vieilles relations-là, au beau fixe.
Alors, il y a cette question d'immunité dont M. Soro jouit. Cela va avoir un impact quelconque sur ce mandat d'amener ?
M. Soro est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas un citoyen ordinaire. Et il faut donc, c'est pourquoi je parle de dispositions juridiques à prendre. Et il faut qu'il fasse tout pour répondre de l'accusation qui est faite.
Est-ce qu'on peut imaginer une situation où cette immunité ne serait pas activée ?
Je voudrais dire que la Côte d'Ivoire et le Burkina devront appliquer tous les textes qui les lient. Il faut donc revoir tous les textes et voir la faisabilité de l'extradition.
Quel est le sentiment aujourd'hui général au niveau du milieu politique en Côte d'Ivoire vis-à-vis de ces enregistrements téléphoniques ?
C'est un sentiment de gêne. Et pour nous, au Front populaire ivoirien, nous avons une éducation politique qui nous éloigne de la violence. C'est pas l'habitude des militants du Front populaire ivoirien. C'est pourquoi nous souhaitons absolument que M. Soro réponde pour clarifier et surtout laver l'image de la Côte d'Ivoire et des hommes politiques de Côte d'Ivoire.
Michel Amani Nguessan du Front populaire ivoirien. Signalons que selon l'AFP, l'entourage de Guillaume Soro a estimé que la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre par la justice du Burkina Faso serait un acte hostile.
République démocratique du Congo, le G7, une plateforme politique de l'opposition composée des anciens partis cadres de la majorité présidentielle, croit encore à l'organisation des élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel. Les membres de ce regroupement politique proposent même un calendrier que le groupement a rendu d'ailleurs. Reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le président du G7, Charles Mwandosimba, a soutenu que le processus électoral est bloqué et connaît un retard inquiétant.
À cause des multiples entraves politiques, financières et administratives dressées par la majorité présidentielle, le processus électoral est bloqué ou en tout cas connaît un retard inquiétant. La tension politique monte dans les pays chaque jour davantage et les oiseaux de mauvais augure annonce déjà l'apocalypse dans les jours à venir.
Cette plateforme estime qu'il est possible d'organiser les élections au dernier trimestre de cette année. Le député Christophe Lutundula.
Pour le G7, la poursuite de la démocratisation et la réussite des prochaines élections exigent de toutes les institutions concernées une volonté politique réelle et des actes de bonne foi qui puissent remettre le processus électoral sur du bon rail. Le G7 croit fermement qu'il est possible d'organiser les élections dans le délai constitutionnel.
Le G7 exhorte la CENI de ne pas se mêler des questions politiques. Christophe Lutundula.
À la Commission électorale nationale indépendante, dont l'image s'est beaucoup ternie et la crédibilité sérieusement émoussée dans l'opinion, le G7 demande de cesser de se mêler des débats politiques et de ne plus se soumettre servilement aux injonctions de la majorité présidentielle pour se consacrer exclusivement à son travail technique.
Pour le G7, a dit Christophe Lutundula, la majorité présidentielle doit consentir au report des élections locales, municipales et urbaines.
C'est ici le lieu pour le G7 de réitérer son invitation à la majorité présidentielle et aux institutions qu'elle malmène depuis un certain temps à faire preuve de réalisme et de responsabilité en acceptant le report à plus tard des élections locales, municipales et urbaines qui relèvent plutôt de la loi électorale, afin de mieux les préparer, d'achever les travaux de délimitation et de stabilisation de la cartographie administrative des entités concernées, ainsi que l'implantation des tribunaux de paix en charge du contentieux électoral des entités de base. Le G7 est convaincu que si les obstacles politiques, administratifs et financiers sont levés rapidement et que la CENI gère techniquement et de bonne foi les activités opérationnelles, la collecte de données sur le terrain peut se terminer en juin 2016 et le processus peut reprendre son cours normal.
Le G7 demande aux partenaires extérieurs de la RDC de faire diligence dans la matérialisation des annonces de contribution au processus électoral. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
Au Cameroun, les personnes âgées se sentent de plus en plus délaissées par leurs enfants. Les familles les envoient dans des maisons de retraite au lieu de s'en occuper à la maison, comme la tradition du pays l'exige. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, repris par Maëlie Segel.
Depuis 4 ans, Ga Gisèle, 72 ans, est pensionnaire au centre Bethany Viakam de Yaoundé pour les personnes âgées et malades. Abandonnée par sa famille et ses deux enfants, c'est un étranger qui l'a amenée dans ce centre lorsqu'elle a commencé à souffrir d'infections chroniques du cœur.
La famille, c'est là où Dieu te met, c'est là la famille. Et en venant ici, c'est un papa Jésus, prêtre, qui a eu pitié de moi, papa Roger. Et je ne sais pas comment ça s'est passé pour qu'elle me retrouve ici. Lui-même, je ne le connaissais pas. Et c'est ici que j'ai appris que c'est lui. Je suis arrivée comme ça, comme par miracle de Dieu.
45 personnes résident dans ce centre. Jean Ntundi, 84 ans, est un professeur retraité. Il explique comment sa fille l'a amené ici. Elle ne pouvait plus s'occuper de lui, sa carrière lui prenant trop de temps.
C'est ma fille qui m'avait amené ici, parce que je suis paralytique. Ma fille, elle travaille à Douala. Il n'y avait personne qui pouvait prendre soin. Quand votre papa est malade, vous ne pouvez pas le laisser traîner comme ça.
Ndoula Pascaline, une responsable du centre, explique qu'autrefois au Cameroun, c'était un tabou d'envoyer ses parents en maison de retraite. Mais aujourd'hui et de plus en plus, cette vieille tradition se perd, car les enfants n'ont plus le temps ni l'argent de les garder chez eux.
Lorsque vous avez une personne âgée dans votre famille, elle devient une charge pour vous. Il faut nourrir, il faut habiller. Bref, elle devient un bébé tout fait. Et comme les moyens ne suivent toujours pas, la personne est abandonnée, pas par notre volonté, mais par manque de moyens. Il y a une autre catégorie de personnes âgées qui est vraiment abandonnée parce que ces personnes-là nous font de mauvaises choses.
Selon une étude publiée en 2013 par la CEAC et le Haut-Commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, seulement 10% des Camerounais cotisent pour leur retraite via la sécurité sociale. Richard Ditanto, directeur du service œcuménique pour la paix, l'ONG qui a dirigé cette étude, explique qu'il est impératif pour le gouvernement de prendre soin de ces personnes âgées.
Il faut que tous les acteurs se mobilisent et qu'ils comprennent les enjeux de la vieillesse en Afrique, pour au moins commencer à réfléchir à la mise en place d'un système de réhabilitation des personnes âgées. Les aînés ont passé leur vie à travailler pour construire le pays, et je ne pense pas que le pays doive les abandonner lorsqu'ils atteignent le troisième âge.
Les Nations Unies estiment qu'en 2050, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans aura augmenté de 2 milliards grâce à l'amélioration des soins médicaux.
Enfin, la République centrafricaine, à 500 km de la capitale Bangui, dans le sud-ouest du pays, vivent dans une région isolée, les pygmées Bayaka. Selon les dernières recherches anthropologiques, ils sont menacés pour avoir été obligés de quitter la forêt, désormais classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Leurs traditions et modes de vie tendent à disparaître. Dans le village de Belemboké, quelques 1500 Bayaka tentent de s'adapter au monde extérieur et aux autres communautés. Tatiana Mosso a profité de son récent voyage en Centrafrique pour s'entretenir avec Basile, un des anciens du village.
Les Bayaka vivaient en forêt. Ils se nourrissaient grâce à la cueillette des champignons, des feuilles de coco. S'ils vont à la chasse, ils ramènent à leur patron. Et grâce à leur patron, maintenant, on leur donne un peu de manioc pour mieux vivre.
Donc les Bayaka étaient les employés des villageois ou c'était plutôt, ils étaient plutôt exploités?
Oui, ils étaient exploités. Donc les bilots étaient leur patron. Comme moi, je travaille sous quelqu'un. Donc si j'ai quelque chose aujourd'hui, j'arrive, je lui donne. Ou je trouve des diamants, je viens, je lui montre. Voilà ce que j'ai. Et à lui maintenant d'aller manger. Et après, il dit, bon, merci, comme tu as trouvé quelque chose, je te donne un peu quelque chose.
Un Bayaka trouve un diamant, que ce diamant-là vaut 30 000.
Oui.
Et il apporte à son patron.
Oui.
Son patron va lui donner...
5 000.
Donc en fait, les Bayaka étaient exploités et volés.
Voilà, comme ils vivent en dessous des bilots et ils ne connaissent rien dedans. Tout ce qu'il trouve, il montre à son patron et c'est à son patron maintenant de lui donner quelque chose.
Est-ce que vous n'avez pas peur pour l'avenir des générations futures?
Et avec les enfants d'aujourd'hui qui sont à l'école, qui cherchent maintenant de devenir des gens, et que les enfants eux-mêmes se déplacent pour aller à Noula, revenir. Donc ils connaissent déjà que là je peux partir, je peux revenir. Je connais parler Sango, langue nationale, donc ils n'ont plus peur. C'est un développement qu'on sait qu'on ne peut plus aller en arrière.
Mais alors toutes les connaissances que vous, que vos pères, grands-pères ont pu avoir, vous n'avez pas peur que ça disparaisse?
Ce qui disparaît maintenant, ce sont des choses que les vieux auparavant ont utilisées pour garder leur corps. Des choses qu'ils peuvent faire pour éviter que si le gorille vienne, il ne faut pas que ça les attaque. L'éléphant vient, il ne faut pas que ça les attaque. Ça, ce sont des choses anciennes. Et la plupart des gens ont été déjà baptisés. C'est pour dire que croyons seulement à Dieu.
Est-ce que vous pensez que c'est ça l'avenir des Bayaka? C'est-à-dire de servir aussi bien pour le braconnage que pour la protection des parcs?
Bon, c'est ce que les Bayaka ne devaient pas faire. Parce que la vie devient chère aujourd'hui.
Les jeunes hommes Bayaka sont facilement influençables par tout ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on est capable de les acheter avec de l'alcool, on est capable de les acheter juste avec des cigarettes, ou encore on m'a parlé de cachets qu'ils prennent et ils sont complètement perdus.
D'abord, eux, ils visent l'argent, mais ce n'est pas le métier qui les intéresse. Parce qu'aujourd'hui, ils vont travailler. 2 mois, 3 mois après, non, l'argent n'est pas costaud. Librement, ils quittent. Mais c'est un fait difficile que tu saches que celui-là, c'est un drogueur. En plus, les comprimés qu'ils vont acheter, c'est ça qui fait qu'il y a toujours la mort. Parce que les gens viennent te tromper et te disent, non, prends ça, tu es mon ami, voilà ce que moi je vis à cause de ça, ça. Tu prends, or que ce que tu es en train de prendre, c'est ça qui va te tuer ou plus tard, c'est ça. Et après, quand tu deviens esclave de ça déjà, toi-même tu te tues. Bien sûr, les drogues, quoi, ça se vend un peu partout. Même si les prêtres sont en train d'interdire, mais ça rentre partout.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi, nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au +225 58 92 85 40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001 202 619 31 40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, présentation Chérubin Dorsil et Morgane Guériec.
On remercie Robert Wagner à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook, où vos questions et commentaires sont bien sûr les bienvenus. Vous pouvez aussi partager vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.